Jean-François Kervéan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancier, prix du premier roman, c'était en 94 pour La Folie du Moment, puis en 96, L'Ode à la Reine qui vous avait valu le prix Renaudot des lycéens. Beaucoup d'autres romans suivront. C'est évidemment la première fois que vous venez dans Tout et son contraire. Et pourtant, j'ai réalisé que j'avais déjà lu pour cette émission 4 livres de vous. Le bal des papillons d'Hervé Villard, Abus de faiblesse de Catherine Breillat, De la lumière à l'oubli de Michel Drucker ou Trop vite signé Nabila. Car vous êtes également nègre de People. On dit parfois coach littéraire, on dit parfois collaborateur. Chacun emploie le mot qu'il veut, on en reparlera. Mais votre actualité, c'est un roman bouillonnant et érudit chez Robert Laffont. Le titre, La naissance du sentiment, c'est un très beau titre. Avant même de raconter l'histoire, il faut donner le contexte. Cela se passe dans la Grèce antique du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant Socrate, Platon et Aristote. Pas n'importe où, à Sparte. Pourquoi ce choix ?
Le choix de Sparte. Alors, la Grèce, 5 siècles avant Jésus-Christ, c'est la naissance de la démocratie, qui va s'accompagner d'une fraternité, hein, d'où la naissance des sentiments, face aux Perses, qui sont pratiquement un million d'hommes, dit Hérodote, et qui vont tout bousiller. Donc les Spartiates et les Athéniens s'organisent contre les Perses. C'est la naissance du bordel démocratique, qui prévaut encore aujourd'hui. Liberté, fraternité, égalité.
Alors, c'est dingue la vie à Sparte. On connaît évidemment l'expression « le confort spartiate » pour dire que c'est très très dur. Ouais. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. C'est l'État qui se charge de leur éducation. Et le roman part d'ailleurs de cette donnée. Une maman qui est privée de son fils une fois qu'il a 7 ans. Essayez de raconter l'histoire, tenter que ce soit possible de résumer.
Bah, c'est l'histoire de tous les petits spartiates. Si vous aviez la fierté et le malheur de naître à Sparte, il fallait être très 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 en forme, sinon on vous tuait. Et on vous tuait très très vite. Hein. Si vous aviez une bosse, si vous voyez mal, si vous avez un pied plus grand que l'autre, une jambe plus courte, pof, on vous foutait au gouffre des Apothétès, on vous balançait dans le vide. Les spartiates ne se tolèrent que forts et puissants.
Donc l'histoire, ce petit naît...
Le petit, le problème, c'est qu'il a l'air tout à fait bien. Il passe toutes les épreuves, mais la nuit, il fait de l'asthme. L'asthme est une très 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 vieille maladie. Et cet asthme, elle, la mère, elle est témoin que son fils a de l'asthme. En principe, elle devrait le dénoncer ou carrément le tuer, parce qu'il est impropre. Mais la marge va l'emporter sur la norme. Même s'il est faible, elle va le garder. Elle va garder ce gosse, et il va rentrer dans la goguée, la grande éducation spartiate. Et hormis ses crises d'asthme, il devient un très bon guerrier.
Il fait pote avec le roi.
Il fait pote avec Léonidas, qui va devenir très 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 célèbre. Alors c'est une amitié un peu compliquée, les mœurs des Grecs parfois passent par des moments douloureux.
Ah bah tiens, puisque vous parlez des mœurs, vous dites on partage ses repas comme son conjoint,
oui.
Vraiment ?
Ah oui, à Sparte, non mais Sparte c'est une société merveilleuse, hein, société collectiviste qui a inspiré tant de penseurs, tant de philosophes, terrible, hein.
Mais
le meilleur et le pire.
Les femmes, elles et les veuves,
oui.
Mais sinon, les couples, le mari prête sa femme, la femme prête son mari ?
Oui, quand les maris se sentaient pas en forme et que leur femme avait envie d'aller dans ce qu'ils appelaient le prix de la jouissance, ils pouvaient dire à un collègue plus en forme ce soir-là, bah, va voir ma femme cette nuit. Les hommes et les femmes se mariaient mais ne vivaient pas ensemble.
Alors j'ai découvert aussi dans ce livre la cryptie, un rite sanguinaire.
Bah oui. La cryptie c'est vraiment l'état policier le plus abominable et en même temps ça a été très efficace. Ils ont conquis la Mycénie et pour maintenir cette population dans la terreur, une nuit par an, les Spartiates tuaient leurs meilleurs esclaves. Pas les insolents, pas les récalcitrants. Non, les meilleurs, la fleur de leurs esclaves, ils allaient les tuer la nuit, parce qu'ils considéraient que s'ils étaient bons, brillants, ils finiraient par s'insurger. Donc la cryptie, un spartiate pouvait tuer tous les esclaves qui passaient, qu'il voyait.
Alors, le roi, c'est Léonidas, et vous avez raison, Jean-François Kervéan, ça manque pas d'humour. Vous écrivez à son sujet, page 128, « Le destin de Léonidas vient de s'ébranler en même temps que l'ère classique, verrou, un gouffre, un triomphe, une marque de chocolat. » Oui, mais normalement, on ne l'écrit pas dans le roman, ça. C'est du métalangage, ça se fait
pas. Je sais, mais par moments, si vous voulez, comme moi, je ne suis pas une rombière de l'académie. La culture, pour moi, elle est vivante. J'avais des tas de chocs en lisant ces textes, en retrouvant ces gens. Dans le style, je laisse passer ce que vous appelez des anachronismes, qui sont des effets de familiarité, mais qui permet aussi de retrouver vraiment la vie de cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi de l'argot, il y avait de l'humour, ils se foutaient des pelles et des nions en permanence.
Un mot d'onomastique, pourquoi ces noms ? La mère, elle s'appelle Gorgophoné, ça veut dire quelque chose ?
Ah non, c'est des noms grecs.
Le sénateur s'appelle Hippocon, mais avec deux O.
Alors vous dites Hippocoun.
Hippocoun, d'accord. Alors il y a un chevreau, page 175, qui apparaît, il s'appelle Morandinix.
Oui, alors ça, je devais être énervé contre quelqu'un qui finalement n'a pas quitté e-télévision.
Jean-François Kervéan avec nous sur France Info, je vais y arriver, on se retrouve tout à l'heure. Jean-François Kervéan avec nous qui vient parler de son dernier roman, ça s'appelle La naissance du sentiment, c'est chez Robert Laffont. Je l'avais dit, j'avais lu pour cette émission 4 livres de vous, sans savoir que c'était de vous. Le bal des papillons d'Hervé Villard, Abus de faiblesse de Catherine Breillat, De la lumière à l'oubli de Michel Drucker ou Trop vite signé Nabila, sans parler du livre de Lahana qui avait fait un carton en 2001, ça s'appelait Miette. Première question. Comment se fait-il que vous ne soyez pas caché ? Je croyais que c'était constitutif du métier de nègre que d'être un écrivain fantôme.
On n'est plus sous l'Antiquité, hein, on n'est même plus dans les années 70 ou 80. Aujourd'hui, vous allez à la page 5 ou 6, et quand du livre en question, et quand il y a un co-auteur, il est cité. Enfin, moi, j'ai toujours été cité. Tous les livres dont vous venez de parler, je suis cité en page 5 ou 6 comme co-auteur du livre.
Vous donnez quel terme, vous ?
Moi, je disais nègre, et souvent, je me souviens qu'une fois, Michel Drucker m'avait dit, mais vous n'êtes pas mon nègre. Il était super vexé, en fait. Et nègre, c'est un mot sale, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un type dans un placard qui est écrit à la place d'un alphabet, quoi. C'est moche. Donc, moi, je dis ghostwriter ou co-auteur.
Ouais. Pourquoi vous êtes lancé dans ce métier ?
Mais parce qu'un jour, mon téléphone a sonné, c'était Claude Durand, qui était un immense éditeur de Solzhenitsyn, de Garcia Marquez, et Claude Durand me dit, mais moi je veux faire les mémoires de Loana et je voudrais que ce soit vous. Et moi je m'intéressais au loft, il avait lu des papiers que je faisais à l'époque sur le loft, on est au début du 21e siècle, et j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas, on y va. Donc j'ai rencontré Loana, elle m'a choisi, je fais mon premier livre de co-auteur.
Vous avez aussi révélé que c'était parce que c'était bien payé. Vous avez dit, comme il était très difficile de vivre des littératures, ouais. Je suis allé vers une activité plus rentable, j'ai cédé à l'argent, avez-vous dit ?
Oui, absolument. Absolument. D'ailleurs, je me souviens que Claude Durand, ça prenait toujours 5 minutes avec lui les grosses affaires. Et 4 jours après, j'ai reçu le plus gros chèque de ma jeunesse pour écrire le livre de Loana.
C'était combien ? C'était en francs ?
Oh, je me souviens plus. Oui, je sais plus. On était passé à l'euro ou au bord. Enfin, c'était 100 000 francs comme ça. Ça allait durer 2 mois.
En quoi consiste ce métier ? Quel talent nécessite-t-il ?
L'empathie. L'empathie, c'est-à-dire que je suis pas policier, moi, je suis pas procureur. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec quelqu'un et cette personne, elle soulève sa vie comme on soulève le couvercle d'une boîte de Pandore, quoi. Elle sait ce qui lui fait mal, elle sait ce qu'elle a à raconter, mais elle commence d'abord par parler. Donc, il faut avoir le goût de l'écoute, qui est pas si répandu, qui est de moins en moins répandu aujourd'hui. On croit que l'important, c'est de parler, mais très souvent, c'est encore plus intéressant d'écouter. Donc, on écoute quelqu'un, et puis après, on met en forme ce qu'il a dit, et ensuite, on corrige avec lui sur le texte pour arriver à la meilleure mouture.
Vous tordez le cou, Jean-François Kervéan, à la mauvaise réputation intellectuelle de Loana et Nabila. Vous avez dit, tout le monde dit que ce sont des connes, ce sont votre mot, mais en fait, elles sont profilées pour le 21e siècle. Que voulez-vous dire par là ?
Bah d'abord qu'il ne faut pas confondre la culture et l'intelligence, elles sont toutes les deux complètement incultes. Et d'ailleurs, je me souviens quand j'ai rencontré Nabila, elle m'a dit toute fièrement, j'ai lu un livre dans ma vie. Alors j'ai dit, ah oui, lequel ? Elle m'a dit, les mémoires de Loana. J'ai dit, bah, j'ai participé 10 ans avant, je suis en effet pour s'entendre, je suis votre bibliothèque en fait déjà. Elles sont...
Vous disiez,
c'est des héroïnes de guerre, ces filles-là sont au milieu d'une guerre. Hein. La guerre de la lumière, la guerre du narcissisme, la guerre des vacheries, la guerre de la survie. Et donc toute héroïne finit par se mettre en marche, c'est des filles actives.
Vous avez dit aussi, Nabila n'est pas concernée au-delà de son monde, c'est-à-dire ?
Bah ça c'est tout le problème de la télé-réalité, c'est tout le problème de la modernité aussi, c'est que à force de tout regarder sur des petits messages et des petits écrans, on voit mal le monde. Et je me souviens qu'avec Nabila, j'avais un moment d'énervement, on était à la gare d'Aix, on remontait à Paris parce qu'elle devait rencontrer son procureur. Bon, c'est vrai qu'elle pouvait retourner en tôle, c'est le moment où elle avait rompu son contrôle judiciaire en revoyant son fiancé. Et dans le monde, il y avait des photos d'enfants qui mouraient en Méditerranée. Et je voyais bien qu'elle regardait ces photos, mais qu'en même temps, elle m'en parlait pas, parce que la seule souffrance qui comptait, c'était la sienne. Et d'ailleurs, je lui avais fait remarquer. Je lui avais dit, mais il y a d'autres gens qui souffrent que toi. Hein. Et on s'est appris plein de choses.
Vous avez aussi une activité de critique littéraire, notamment à la télé, dans Sa Balance à Paris.
Non, j'y suis plus.
Mais je me souviens de vous quand même, présenté par Nolo sur Paris Première, et vous aviez la dent dure. Vous avez arrêté parce que vous vouliez plus avoir la dent dure ?
Non, j'ai arrêté parce que ça se formatait, ça, c'était un peu ennuyeux. Mais la dent dure, c'était le jeu de l'émission, c'est-à-dire qu'on allait voir des films, on lisait des livres, et on devait dire exactement ce qu'on en pense, quel que soit l'auteur, quelle que soit la situation.
Deux exemples entre mille, Le Dernier Ruffin est du niveau de Bob Moran, ou encore Bernard Pivot écrit des livres abrutissants. Vous le pensiez, ou vous en rajoutiez, pour faire de l'effet ?
Ben non, parce que je le pense encore. Ça n'a pas bougé d'un iota. Bob Moran est... Oh là là, les phrases de Pivot sur le petit chocolat qu'on boit en même temps qu'un verre de vin rouge, franchement...
Jean-François Kervéan avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Jean-François Kervéan avec nous sur France Info. Vous lisez les papiers écrits sur vous et sur vos livres ?
Parce que j'en lis quoi ? Deux par an, vous voyez, c'est pas fatigant.
Tiens, à propos de délai, est-il vrai que vous n'avez mis que 6 mois pour écrire La Naissance du Sentiment ?
Oui.
Comment vous avez fait pour aller aussi vite ?
J'ai fait que ça. Je me couchais, je me levais avec.
Est-il vrai que votre père est un cadre de l'AFP ?
Oui.
Ça aide pour être pistonné, pour être journaliste ?
Ah oui. Ah bah il m'a fait rentrer à l'AFP, service de nuit. Gros salaire quand j'étais étudiant, je bossais la nuit à l'AFP, c'est grâce à mon père. Mais, à l'inverse de Monsieur Fillon et sa dame, jamais dans le service de papa, toujours un autre service.
Et c'était un vrai emploi ou c'était fictif ?
Ah bah non, c'était un vrai emploi, c'était même bien payé. On était copistes, c'est l'époque où il n'y avait pas encore l'informatique. Il fallait donner aux journalistes leur copie papier qu'on déchirait avec une règle en fer.
Vous avez travaillé comme journaliste à l'événement du jeudi ?
Grand souvenir, ouais.
Est-il vrai que le courrier des lecteurs était parfois truqué ?
Oh merde, vous me posez une colle, je pense que oui.
Que c'était un rédacteur qui disait du bien du journal.
Il y a eu une histoire comme ça à l'événement.
Et ouais,
il y a eu une histoire comme ça.
Ouais. Et en plus, il y a eu des compliments sur votre talent de critique littéraire.
Vous pensez que c'était bidon ? Vous pensez que c'était même moi qui l'avais peut-être écrit ?
Ah, je sais pas qui l'a écrit.
Je sais pas qui l'a écrit,
mais j'ai retrouvé le papier du Canard de 97. Et il y a une certaine Laure Dumoulin de Clamart qui laisse clairement percer son intense admiration pour vous. Elle dit « Je ne connais pas Jean-Jacques Hervéan, j'imagine que pour se livrer à ce parcours, il parle bien anglais, etc. Mais ce que je sais de lui, c'est qu'il a bien du talent. »
Et ça, c'était dans le courrier des lecteurs de l'événement.
Ouais.
Donc vous venez de préciser qu'il était bidon.
Bah oui, en tout cas, Laure Dumoulin...
Vous êtes vraiment journaliste chevronné, vous. Hein.
Mais est-ce que c'était vous qui avez écrit le papier?
Ah non, je jure que non.
Est-il vrai que si quelqu'un à qui vous avez travaillé s'exprime pendant 40 minutes à la télé sans vous citer une seule fois, vous l'appelez?
Non, c'est arrivé une fois. Une fois, quelqu'un a parlé de moi pendant 40 minutes et il m'a pas cité.
Et alors?
Bah, j'ai envoyé un texto.
Vous lui avez dit quoi?
Bah, j'ai dit, en 40 minutes, vous n'avez pas eu le temps de dire mon nom. Et il était fou de rage contre lui-même parce que c'était un oubli. Il était furieux, mais comme quand on s'en veut d'avoir commis une faute. C'était Michel, et d'ailleurs je le salue.
Est-il vrai que vous avez été choqué par l'exposition des photos de Nikos Aliagas?
Non, j'ai été choqué par la pleine page que lui a consacrée le Parisien en titrant en gros le nouveau Salgado, qui est le plus grand photographe contemporain en noir et blanc.
De photojournalisme, grand photographe brésilien.
Ouais, portrait noir et blanc, il est là, c'est le génie du 20e siècle et même du 21e siècle de la photo. Il n'y a pas plus grand, sous prétexte que c'est en noir et blanc et Nikos Aliagas aussi. Le Parisien titre et ça fait confusion culturelle. Le People, c'est pas l'Académie quand même, c'est pas l'Olympe.
Question personnelle, est-il vrai, c'est l'Express qui donne cette info, que vous êtes dépensier au point d'être en délicatesse avec le fisc?
Ah mais je suis plus qu'en délicatesse.
C'est-à-dire quoi, plus qu'en délicatesse?
Moi je suis la mascotte, je peux le dire d'ailleurs, parce que j'ai rien à cacher. J'ai une ardoise énorme au fisc, parce que je suis nul, mais j'ai jamais rien caché, et s'il faut payer, je paye.
Merci beaucoup, Jean-François Kervéan.
Mais c'était un plaisir, ce grand tour de piste.
D'être venu nous voir.